Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronicle. Aujourd'hui, un épisode centré sur une production de financement participatif. Avec moi, Cyril. Salut Cyril.
Salut.
Et un invité qui va justement nous parler un petit peu de la maison d'édition, du projet en lui-même, de l'univers et tout ce qu'il y a à savoir pour que vous puissiez aller à toute vitesse participer à la campagne qui est en cours pour le tome 4. C'est Jean-Michel Ferragatti. Bonjour, comment vas-tu ?
Bonjour, ben je vais bien, j'espère que vous aussi.
Toujours, toujours.
Bon, c'est cool.
Du coup, comme je le disais, Jean-Michel est un petit peu le maître chef d'orchestre de tout cet univers qu'est Centaur Chronicle. Mais juste avant ça, je pense qu'on va te demander une petite présentation de qui es-tu et que sont les éditions auxquelles tu publies rapidement pour pouvoir un petit peu situer le personnage pour les gens qui ne te connaîtraient pas, pardon.
Maintenant, je m'appelle Jean-Michel Ferragatti, j'ai une cinquantaine d'années et depuis maintenant pas mal de temps, je fais un travail d'historien autour de la bande dessinée américaine. Donc, j'ai d'abord écrit pendant des années sur le site internet de Comic Box, donc, qui était le magazine de référence publié en kiosque sur la BD américaine. Et donc, je publiais une chronique qui s'appelait French Collection, où j'ai retracé l'arrivée des BD de super-héros en France de 1939 à, je crois qu'on s'est arrêté vers 1975 un peu. Voilà. Et donc j'en ai tiré un livre qui s'appelle L'histoire des super-héros, qui a été publié chez Neofelis, hein, et qui retrace un petit peu, enfin qui synthétise donc ces chroniques et qui retrace l'histoire des bandes dessinées de super-héros en France de 1939 à 1961. Et puis, depuis quelques années, je travaille non pas en tant que, enfin pas uniquement en tant qu'historien, mais également en tant que scénariste, sur une série de bandes dessinées qui s'appelle Centaur Chronicles, dont en effet le volume 4 est en cours de financement participatif sur la plateforme Ulule.
Ça marche. Du coup, cette production qu'est Centaur Chronicles, c'est auto-publié ou... Enfin, c'est une maison d'édition qui t'appartient à toi, ou enfin une maison d'édition, peut-être, c'est pas exactement le terme.
Si, si, c'est ça. Donc, c'est en effet une petite maison d'édition qui s'appelle FG Productions et qui publie le projet Centaur Chronicles, qui a aussi publié un petit projet pour rendre service à un ami auteur, Chris Malgrin. Et donc, la maison d'édition a publié The Formidable versus The Mighty Titans. Et puis, potentiellement des projets d'auteurs amis qui pourraient être portés par la maison d'édition. Alors voilà, c'est une société en tant que telle, hein, je suis le président, presque honorifique, sur lequel voilà, on fait porter les coûts de production des projets, et puis qui nous permet d'avoir les financements participatifs, de participer au salon, de faire de la vente à distance, d'avoir quelques librairies physiques ou virtuelles, amies qui nous distribuent, voilà.
D'accord, c'est ce qui vous permet en fait d'avoir une base solide pour justement faire perdurer un petit peu le projet qu'est Centaur Chronicle.
Exactement, tout à fait.
Si d'ailleurs, vas-y.
Pardon. Si je peux me permettre, ça prouve aussi, sur la structure que tu as mis en place, Jean-Michel, ça prouve aussi que le financement participatif n'est pas forcément, pas forcément de pair avec de l'amateurisme. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on utilise du financement participatif qu'on n'est pas pro dans sa gestion et dans ce qu'on propose.
Complètement. Et pour moi, c'était aussi important parce que justement, ça facilite les relations à la fois avec la plateforme, avec les imprimeurs, avec potentiellement les distributeurs. Voilà, disons que c'est pas moi tout seul qui viens et on peut me soupçonner, entre guillemets, de prendre l'argent et de pas livrer ou des choses comme ça. Là, il y a une société, ça permet de sécuriser tout le monde, y compris moi, d'une certaine manière.
D'accord. Et du coup, je rebondis un petit peu sur le fait que ce soit cette maison d'édition qui porte le projet Centaur Chronicle pour que, justement, est-ce que tu peux nous en parler de ce projet ? Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu ?
Oui, alors le projet Centaur Chronicles, c'est l'idée d'utiliser des personnages américains libres de droit qui ont été publiés entre 1935 et 1942 Alors, une maison d'édition qui s'appelait Centaure Comics ou Centaure Publications. Et donc de les utiliser à la fois pour raconter des histoires modernes, on va dire. Elles se passent à la fin des années 50, début des années 60. Elles sont dessinées par des artistes français. Et en même temps, de publier des épisodes originaux, donc qui datent des années 40, dessinés par des artistes américains, afin d'expliquer l'univers au travers de ce va-et-vient entre des épisodes modernes et des épisodes anciens qui expliquent une partie de la trame des histoires.
D'accord. Mais du coup, tu peux utiliser ces personnages-là parce que c'est parce qu'ils sont si vieux que. Enfin, si vieux, je m'entends avec cette question. C'est parce que ces personnages sont suffisamment vieux qu'ils sont tombés dans le domaine du public que tu peux les utiliser ou tu as fait des
Alors, je...
démarches pour pouvoir les utiliser?
non, alors tout le monde peut les utiliser, donc ils sont vraiment dans le domaine public, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le droit de la propriété intellectuelle américain, jusque dans les années 80, presque 90, était différent des droits européens notamment. Et donc les personnages n'appartenaient pas à leur créateur, personne physique, ils appartenaient à la société qui déposait ce qu'on appelle un copyright, c'est-à-dire un droit de propriété. Ces copyrights devaient être renouvelés tous les 25 et puis après 28 ans. Au départ, 2 fois 25 ans, soit 50 ans, ce qui correspond à peu près à la durée, je dirais, de protection d'une création, si ce n'est que c'est à la, en Europe, c'est au décès de son créateur. Donc après le décès du créateur, les ayants droit ont le droit de conserver une sécurité juridique pendant 50 ans. Là, c'était un peu différent. Pendant 50 ans, la société qui déposait le copyright pouvait le sécuriser, puis après c'est passé à 2 fois 28 ans, et il y a d'autres mécanismes de protection qui font que certains personnages ne tombent jamais dans le domaine public, hein. Superman, Batman, Captain Marvel, Spider-Man, etc.
Non, non,
Mais
pas
là, en
Captain
fait,
Marvel. Captain Marvel est un très mauvais exemple.
Captain Marvel est un très mauvais exemple. En effet, je parle de celui de Marvel. En effet, le Captain Marvel original, lui, alors, il n'est pas tombé dans le domaine public, mais le nom, en fait, ne peut plus être utilisé pour, comment dire, être mis sur un magazine ou un produit dérivé. Parce que maintenant, le nom Captain Marvel appartient à Marvel Comics, qui n'est pas le créateur du Captain Marvel originel, ni du second Captain Marvel, d'ailleurs. Parce qu'il y a
C'est
eu un
bien
second
technique,
Captain Marvel. Ouais. Et donc, comme la société Centaur Comics a à un moment arrêté de publier ses comics, elle a fait autre chose. Elle n'a pas totalement disparu, mais elle a fait autre chose. Au moment du renouvellement du copyright, 25 ans après, personne n'est venu renouveler le copyright, ni la société, ni les auteurs qui, à ce moment-là, auraient pu récupérer le droit sur leur création à condition de renouveler un copyright. Or, ça coûte de l'argent de renouveler un copyright. Et 25 ans après, c'était le moment où en fait plus personne ne s'intéressait aux super-héros et où les créateurs, de toute façon, n'avaient quasiment aucun n'avait eu l'idée de se dire je vais récupérer le copyright de ma création. Donc, au niveau du droit américain, tous ces personnages sont devenus libres de droit, n'importe qui peut les utiliser. Et comme les États-Unis ont signé ce qu'on appelle un accord de réciprocité avec la France, tout personnage qui est dans le domaine public aux États-Unis et dans le domaine public en France est inversement.
D'accord, ok. Ça, c'est intéressant. Par contre, j'étais pas du tout au courant que y avait ce droit de réciprocité. Et enfin, ça peut amener un peu à n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, mais mettons si un éditeur a dans le giron un personnage français et que quelqu'un oublie de renouveler le copyright, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent passer à ce copyright-là.
Oui, alors en France, c'est un peu différent, hein. Le droit, comme je disais, il est attaché au créateur et non pas à la société qui immatricule le copyright. Le créateur, au bout de 50 ans, après sa mort, les ayants droit n'ont plus un droit, comment dire, unilatéral. Donc ça tombe dans ce qu'on appelle le domaine public. Et après, à partir du moment où c'est tombé dans le domaine public en France, un éditeur américain pourrait le reprendre, en effet. Pendant très longtemps, comment dire, les meilleures ventes de livres aux États-Unis, en fait, étaient des romans, notamment libres de droit français, publiés aux États-Unis, Les Trois Mousquetaires, Jules Verne, etc. Quand bien même, si on avait suivi le droit américain, et si Jules Verne ou Alexandre Dumas avaient déposé des copyrights des Trois Mousquetaires, du Capitaine Nemo, etc., un Américain aurait, en théorie, pas pu l'utiliser jusqu'à la signature de cet accord de réciprocité. Donc oui,
D'accord.
c'est assez complexe, faut bien regarder. Nous, on avait eu une petite crainte au départ, parce qu'on n'avait pas au début connaissance de cet accord de réciprocité. Et donc, les ayants droit des auteurs américains auraient pu nous dire, bah, selon le droit français, la durée d'utilisation est plus longue, donc ils auraient potentiellement pu nous faire un procès. Voilà, c'était un peu complexe, mais une fois qu'on a eu connaissance de cet accord de réciprocité, tout est devenu bon.
Mais du coup, après, je laisserai la parole à Cyril parce qu'il doit avoir pas mal de questions. Sur ces personnages libres de droit que vous avez choisi, enfin que toi tu as choisi peut-être, qu'est-ce que tu as le droit d'en faire? Mettons, tu prends un personnage, jusqu'où tu peux l'utiliser, comment tu peux l'utiliser? Est-ce que, mettons, deux personnes peuvent utiliser le même personnage en même temps, tant qu'il est du domaine public? Comment ça se passe cette utilisation-là en fait?
Alors, tu peux en faire ce que tu veux. Donc, la manière la plus simple, c'est de rééditer les épisodes originaux. Donc, ce qu'on fait en partie, puisque la moitié de nos albums sont constitués d'épisodes originaux qu'on réédite. Tu peux le prendre et en faire ce que tu veux. La seule chose qui pourrait être limitante, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle le droit moral de l'auteur. Ça a déjà été évoqué, notamment pour des auteurs européens, mais je pense que ça pourrait être utilisé par les ayants droit des auteurs américains, de détourner le personnage dans un usage qui est totalement contradictoire. Le
Ouais,
cas très célèbre, ça a été
comme
Tintin qui a été détourné dans un pastiche pour faire un album pornographique. Et là, les héritiers d'Hergé, au-delà même du fait que Tintin est encore protégé, ont très clairement fait comprendre que bah, Tintin, c'est pas fait pour faire un album pornographique. On peut en faire potentiellement des pastiches. Là, il y a une, comment dire,
une jurisprudence.
encore. Ouais, voilà. Mais quand c'est détourné réellement. Donc nous, comme on fait du super-héros avec du super-héros, on n'a pas cette problématique-là. Après, oui, plusieurs personnes peuvent l'utiliser en même temps. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a quelques petits projets sur notamment Amazing Man, qui est le personnage central de Centaur Chronicles. Mais ça n'empêche pas que moi, j'ai le droit de faire des choses avec Amazing Man. Gallant Comics, pour les nommer, a le droit de faire des choses avec Amazing Man. Par contre, après, moi, j'ai pas le droit d'aller piocher dans ce qu'ils ont fait, et eux n'ont pas le droit d'aller piocher dans ce que j'ai fait.
D'accord.
Donc,
Du coup, le personnage est libre d'être utilisé comme vous voulez, mais celui qui a fait une histoire a la propriété de l'histoire ou de
Exactement.
l'univers qui a été créé.
Tout à fait.
Mais
Tout
du
à
coup,
fait.
ça veut dire que le personnage t'appartient dans ton histoire, enfin dans ton univers.
Exactement. Tout à fait. Doublement, je dirais, pour notre projet, puisque la majorité des personnages ont été redesignés. C'est-à-dire les costumes que nous utilisons, au fur et à mesure qu'ils évoluent, cette fois-ci, nous appartiennent. Ils appartiennent à la société FG Productions, qui rémunère les artistes, dont l'artiste principal Marty, qui a redesigné les costumes, mais également en partie à Marty, puisque bah, en droit français, en droit européen, un créateur conserve un bout de propriété de son travail lorsque c'est une création. Et donc, ce sont des redesigns. Donc, Marty a une partie des droits sur les redesigns. Moi, en tant que scénariste, j'ai la totalité des droits sur ce qu'on appelle les particularismes de l'œuvre. Donc voilà, il y a des choses que je fais avec ces personnages que d'autres n'ont plus le droit de faire.
D'accord, ok. Cyril, tu as peut-être des questions?
Non, je repensais à Tintin et à l'album porno que j'ai déjà lu il y a très longtemps, et c'est vrai que Tintin n'est pas fait pour ça. Bon,
Voilà, non, mais
soit.
c'est
Non, non,
logique,
mais
c'est ce
c'est vrai.
qu'on appelle le droit moral, en effet.
Voilà, tout à fait. C'est détourner une œuvre. Après, voilà, je suis pas quelqu'un qui se limite sur beaucoup de choses. J'ai l'esprit très ouvert, mais c'est vrai que la parodie pornographique de Tintin est assez particulière. Pauvre Milou. Mais
Oui, voilà, c'est ça.
non, moi, si pour en finir avec le droit, avant de parler de Centaur Chronicles à proprement parler, pour en finir avec le droit et la propriété intellectuelle, donc c'est vraiment la propriété intellectuelle d'un auteur qui utilise un personnage libre de droit est vraiment en propre. C'est-à-dire que chaque univers. Garland Comics pour les nommer, et puis Centaur Chronicles d'un autre côté, chaque univers a ses propres particularités, et chaque auteur ou société d'édition est propriétaire de ces particularités-là.
Tout à fait. Et on pourrait d'ailleurs imaginer un crossover entre Galante et Centaure. C'est-à-dire qu'on amènerait d'une certaine manière les mêmes personnages venant de deux univers alternatifs qui pourraient se rencontrer. Et ensuite repartir. Et Galant continuerait à faire ce qu'ils font, et moi je continuerai à faire ce que je fais. Et il ne pourrait pas, entre guillemets, comment dire, utiliser les particularismes que je fais, donc une partie des origines des personnages, les costumes, et choses comme ça. Donc oui, c'est vraiment. Et si quelqu'un d'autre demain veut réutiliser Amazing Man et les personnages de Centaure Comics, il aura parfaitement le droit. Par contre, il ne pourra pas utiliser nos costumes, il ne pourra pas utiliser certains de nos particularismes. Voilà.
D'accord. Bon, je pense que c'est très clair au niveau du droit et que voilà, tu as tout à fait le droit d'utiliser ces personnages qui sont assez anciens d'ailleurs, qui ont été vraiment remis au goût du jour, que ce soit tant au niveau de l'histoire qu'au niveau du design. Marty a fait un super boulot dessus. La question moi, que je me pose, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi ces personnages de Centaure Publications qui ont quand même une durée de vie assez courte. Enfin, Centaure Publications, ça a duré même pas 10 ans. Que c'était parce que les personnages en eux-mêmes avaient ce potentiel de se développer et d'être vraiment mis sur le devant de la scène? Est-ce que c'est juste une question de sensibilité personnelle? Enfin, pourquoi eux?
Alors, je dirais pour trois raisons. Une question de sensibilité personnelle. Moi, je suis extrêmement attaché à l'historique des personnages. Donc, je suis quelqu'un qui aime particulièrement The Invaders de Roy Thomas chez Marvel, The All-Star Squadron du même Roy Thomas chez DC Comics, voilà, qui explique d'une certaine manière pour lesquels je me suis offrage, comme on dit. Comme tu le dis, Centaure, ça a duré 7 ans, hein, 35-42, et encore, hein, parce qu'en 35, c'est les premiers personnages qui ressemblent plutôt à des Mystery Men, comme disent les Américains, donc des personnages de pulp, c'est un peu comme Zorro, The Shadow, The Spider, donc c'est pas vraiment des super-héros. Et leur super-héros commence en 39, donc un an après Superman, et donc il n'y a eu que 3 ans en fait, hein, 9, 10, 11, il y a eu 4 ans en fait de personnages réellement de super-héros chez Centaure. Et du coup, ils sont très bruts, ils n'ont pas bénéficié des codes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnages qui n'ont pas de costume. Il y a pas mal de personnages qui n'ont pas d'identité secrète. Ce que maintenant serait un peu complètement inenvisageable. C'est-à-dire qu'on connaît les codes et un personnage sans costume, un personnage sans identité secrète, c'est un peu bizarre. On a le premier personnage à avoir un costume intégral. C'est oui. Un peu, pas bête, mais un peu. On a l'impression que c'est anecdotique. Mais quand Spider-Man est sorti dans les années 60, les gens étaient étonnés parce qu'on ne voyait pas son visage. Il était entièrement couvert. Bon, ben, en fait, ce n'est pas Spider-Man qui a inventé ça. C'est un de nos personnages qui s'appelle Phantom of the Fair, qui dès les années 40 avait un costume intégral, ce qui était assez atypique. Donc, comme ils étaient bruts, ils avaient une possibilité de développement, comme tu dis. C'est-à-dire qu'on pouvait regarder, on pouvait se dire comment je peux faire évoluer ce personnage vers quelque chose qui ressemble plus à du super-héros moderne, sans le dénaturer, mais soit en expliquant. Donc, on explique dans notre série pourquoi est-ce que Phantom of the Fair, il a une combinaison intégrale sur lui. Il y a une vraie raison dans notre univers. Et ils avaient du potentiel. Parce que comme ils étaient bruts, même s'ils étaient bruts, je dirais, ils étaient quand même archétypaux. C'est-à-dire qu'on a plusieurs personnages qui sont des précurseurs. On a le premier archer de l'histoire du comics.
Tout
à fait. Le premier super archer. On a le premier héros masqué de l'histoire du comics, The Clock. Donc le premier archer s'appelle The Arrow. Le premier personnage un peu plastique. Donc l'équivalent de Plastic Man, etc., c'est Mighty Man. Il grandit, il est réactif, il peut élonger ses membres. Voilà, donc on a plusieurs personnages assez iconiques. Donc ça, c'était quelque chose qui m'avait frappé, de me dire, ah, il y a peu de gens qui savent en fait que le premier héros masqué, le premier archer, en fait, il vient de Centaure Publications, qui est un éditeur assez peu connu et assez peu sur lequel on a assez peu écrit, même aux États-Unis. Et puis, la dernière chose, c'est qu'en fait, en lisant leurs aventures, parce que j'ai dû lire leurs aventures pour comprendre qui ils étaient, justement, parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'écrit sur eux, je me suis dit, ah, c'est marrant, il y a un fil rouge, un point commun à quasiment tous les personnages. Et ce point commun, je me suis dit, ça permet d'avoir un univers réellement partagé. Et moi, ce que j'aime bien dans les comics, c'est ces univers partagés. C'est-à-dire qu'ils sont tous dans le même univers. Ce qui n'était pas du tout le cas dans Centaure, c'est mis à part sur une couverture, on ne voit jamais les personnages ensemble. Et donc, quand tu mets bout à bout ce caractère iconique et cette possibilité de développement, mon intérêt personnel pour les histoires qui, en fait, reviennent sur le passé des personnages, et le fait qu'il y ait ce point commun permettant de créer un univers cohérent, je me suis dit, c'est vraiment une bonne idée, quoi. Et donc, voilà pourquoi j'ai pris cela plus que d'autres. Parce qu'en effet, il y a d'autres univers qui sont libres de droit. On peut imaginer les univers qu'on appelle Nedor avec Black Terror. Voilà, il y en a plein des autres univers.
Mais celui-là était celui qui te parlait le plus. Et justement, bon, on comprend bien que voilà, Hunter Chronicle, c'était pas des méta-héros, mais de la phase d'après, les premiers super-héros. Justement, ces premiers super-héros qui n'avaient pas cet univers partagé, dans Hunter Chronicles, quelle est la différence majeure, mis à part cet univers partagé, quelle est la différence majeure que toi tu as introduite par rapport aux originaux? Je vais juste faire un petit aparté avant. Hunter Chronicles, donc la campagne Ulule est pour le tome 4. Si vous êtes des fidèles du blog, vous avez lu nos chroniques des tomes 1, 2 et 3, parce que c'est une série qu'on suit depuis le début, et je ne peux que vous engager à les lire. Voilà, je repars sur ma question, Jean-Michel, excuse-moi. Et donc voilà, quelle est pour toi la différence majeure entre les héros de Centaur Chronicles, qui t'appartiennent, et les héros de Centaur Publications?
Alors, il y en a plusieurs. Il y en a une première, donc c'est cet univers cohérent. Dans cet univers cohérent, c'est une origine commune à la majorité des personnages. Donc, c'est ça le premier caractère différenciant. C'est si quelqu'un souhaite réutiliser cette origine, je lui dirais, ben non. Certes, les indices existent dans les épisodes originaux, mais comme ça n'a jamais été développé sous cet angle-là, cette partie-là, c'est à moi. Donc, ça, c'est
D'accord.
un premier point. Le deuxième point, c'est le fait que moi, je n'utilise que, à deux ou trois exceptions près, que des personnages de Centaur Publications. Parce que ces personnages-là ont déjà été réutilisés dans un comic qui s'appelle Project Superpower.
Ouais, j'ai dit Dynamite.
Exactement, chez Dynamite, qui avait été publié en France chez Panini. Peut-être ça a été republié depuis. Mais en tout
Je
cas, ça a
crois
été
pas. Je
publié
crois que ça
chez...
n'a pas été republié. Ça, c'est vraiment été. Même au niveau de la publication de Project Superpowers, si je ne m'abuse, c'était en deux tomes. Et avec des couvertures d'Alex Ross, peut-être bien.
Exactement. En fait, c'est Alex
Voilà, c'est ça.
Ross qui a lancé ce projet et il réutilise une quantité astronomique de héros du domaine public et du Golden Age américain, dont d'ailleurs il y a The Arrow, je crois qu'on voit Amazing Man aussi. Donc il y a plusieurs personnages Centaur. La particularité de Centaur Chronicle, c'est nous on n'utilise que ces personnages-là. Donc ça, c'est la deuxième particularité. Et la troisième particularité, qui à mon sens d'ailleurs est la plus intéressante, et en tout cas moi, m'a extrêmement intéressé et donne un petit peu cet aspect atypique et original à notre univers, c'est que nous, on est vraiment parti des épisodes. C'est-à-dire que ce qui se passe dans les années 60, quasiment tout vient des épisodes qui ont été créés au départ. C'est-à-dire qu'on a vraiment imaginé, j'ai vraiment imaginé la suite de ces aventures comme la suite réelle de leurs épisodes originaux. Donc, quand il se passe quelque chose dans l'épisode originel, on en a les conséquences dans les épisodes modernes. Et c'est ça, je pense, par exemple, Galland a beaucoup retravaillé à la fois les pouvoirs, et on n'a quasiment pas de traces des épisodes originaux dans sa version. Il se fait référence de manière très, très lointaine. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et dernière chose, qui n'est pas comment dire, qui n'est pas en soi un caractère différenciant, mais je pense que les lecteurs s'en rendent compte, et aussi parce qu'on a du rédactionnel dans les livres, c'est que Centaure m'a permis de filer une métaphore sur le médium comics. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que ces personnages étaient là à l'origine, ont arrêté d'être publiés quasiment à la fin du Golden Age. Hein. Le Golden Age américain, c'est 49. Les héros Centaure, ils sont arrêtés d'être publiés en 42. Et
Oui,
moi,
c'est bon.
je les recréais et je continue leurs aventures à la fin des années 50, début des années 60, qui est comment dire,
Le début de
l'apparition du
l'âge d'argent.
Silver Age américain. Exactement. Et donc, ça me permet de filer une métaphore, c'est-à-dire que ce qui s'est passé dans notre histoire à nous, ses précurseurs, l'apparition de Superman, donc la vague de super-héros qui après s'est éteinte et que pendant un moment on parlait plus de super-héros, puis après elle est revenue. Moi, je l'ai transformée en la naissance de ces personnages réels, leur pic de popularité qui est entre guillemets pendant la Deuxième Guerre mondiale, leur disparition, et j'explique pourquoi est-ce qu'ils disparaissent de la vie publique dans leur univers fictionnel, et puis leur retour. Voilà. Donc il y a aussi cet aspect-là qui n'est pas totalement différenciant scénaristiquement, mais qui, dans le cadre du projet, moi, m'a beaucoup intéressé.
Dans le cadre du projet, en tant que lecteur, justement, cette continuité scénaristique entre les projets, enfin entre les épisodes originaux du Golden Age et ce qui en ressort après, et la façon métatextuelle, je crois que c'est le mot, dont tu utilises. Ouais, on utilise des mots savants aussi. Dont tu utilises justement cette disparition et que tu l'expliques pour ensuite les faire revenir au début du Silver Age du comics. Voilà, moi en tant que lecteur, En plus d'être relié entre donc relié les éditions originales avec Centaur Chronicles, ça a du sens. Donc c'est vrai que le lecteur ne peut qu'apprécier ce bloc et cette continuité qui peut se faire non seulement dans les différents volumes de Centaur Chronicles, mais aussi par rapport aux publications originales.
Et tu vois, c'est pour ça que Centaur m'a plus intéressé que, admettons, même s'ils sont encore sous copyright, donc j'aurais des difficultés à l'utiliser, mais les héros qu'on appelle MLG, Archie Comics, comme The Shield, etc., ou les Nedor, enfin, il y en a pas mal d'autres écuries qui pourraient être intéressantes. Parce que justement, je pouvais filer cette métaphore, donc ça me paraît important. Deuxièmement, enfin, en partie aussi, tout simplement parce que je dirais qu'il y a quasiment tous les archétypes des super-héros que l'on connaît modernement chez Centaur. Donc il y a l'équivalent d'un Superman, il y a presque l'équivalent de Batman, c'est pas tout à fait, mais presque.
Le fantôme de fer ressemble quand même beaucoup à Batman.
Ouais, il y a Batman Daredevil, tu vois, ouais. Il ressemble aussi un peu à Daredevil. C'est un personnage qui a sous sa protection une partie de New York. Donc c'est en ce sens-là, que ce soit Gotham, que ce soit Hell's Kitchen. Voilà, donc il y a Phantom of the Fair, en effet. Il y a un archer, il y a un héros aquatique, il y a un héros volant, hein, Hawkman, voilà. Il y a un héros minuscule. Voilà, donc ce que n'ont pas nécessairement tous les autres. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ils étaient vraiment précurseurs. Donc, quand je dis, je parle d'un héros minuscule, c'est le premier héros minuscule de l'histoire du comics américain. Oui, Mini Midget, il s'appelle. Voilà. Donc, il est avant Dolman, qui, je pense, est très clairement une démarcation. Je parle jamais de copie, parce que voilà, les choses évoluent entre guillemets. Il y a toujours un lien. Hein. Je crois que c'est Voltaire. Non, c'est Conan Doyle qui disait « On n'est jamais un arbre en littérature, on est toujours le rameau de quelque chose. » Voilà, parce que notre imaginaire travaille avec nos propres lectures et à un moment, on arrive à quelque chose. C'est pas totalement original, je veux dire. Je l'explique d'ailleurs dans le rédactionnel du volume 4. On sait très bien d'où vient Mini Midget. Il vient du monde du cinéma et ce monde du cinéma venait lui-même de la littérature populaire et fantastique anglo-saxonne. Donc voilà, mais il n'empêche que la première fois que dans un comics on voit un personnage minuscule qui a des super pouvoirs, bah c'est Mini Midget de Centaur.
D'ailleurs, Mini Midget, je crois qu'il y a des choses de prévues sur Mini Midget, si je ne m'abuse. Si j'ai bien lu les réseaux sociaux.
Ouais, alors il y a des choses en effet de prévues sur Mini Midget. Alors il y a beaucoup de projets annexes qui sont en cours en ce moment. Les projets les plus aboutis, c'est The Clock, qui est donc le premier héros masqué de l'histoire des comics américains. The Arrow. Qui va se passer en fait dans un environnement un peu western. Et puis, on a plusieurs autres projets, en effet. On a un projet assez avancé sur Tippi Taylor, qui est un personnage assez rigolo, de l'aveu même des gens qui s'y sont intéressés aux États-Unis, ils l'appellent le Tintin américain. Alors, ça fait un peu bizarre d'imaginer qu'il y a un Tintin dans l'univers Centaur, mais en effet, il y a un petit air de famille.
Un petit reporter à la houppette.
Alors, exactement. En fait, c'est un copy boy américain, donc ce qu'on appelait les copy boys, donc l'équivalent de Jimmy Olsen, qui était les garçons de rédaction, avec une houppette, en effet, qu'on envoie faire un reportage, et il lui arrive plein de choses, et il va se retrouver dans plusieurs endroits un peu extraordinaires, et qui peuvent un peu ressembler à Tintin, alors en plus fantastique, dans le sens américain du terme, fantasy, c'est-à-dire onirique. Mais les gens disent, bah voyez, Tintin, il a été sur l'île mystérieuse, il y a des champignons géants. Voilà, et bah Tippi Taylor, il va dans des endroits où il y a des choses un peu bizarres aussi.
Donc voilà, le projet se développe, le projet, ouais. En plus d'être cohérent en lui-même sur les quatre tomes de Centaur Chronicles, qui forment quand même une arche narrative complète, il va y avoir à côté d'autres projets annexes qui vont se développer, ouais. Et qui vont faire grandir cet univers.
Exactement.
Alors moi, l'idée, je dois avouer...
C'est... Vas-y. Non, l'idée, c'est en fait... qu'il y a un tronc commun, donc qui sont ces volumes, hein, les quatre premiers volumes qui en effet forment une arche narrative. Il y a déjà, et les auteurs ont déjà été, je suis d'accord avec les auteurs, donc il va y avoir un deuxième story arc qui sera sous format d'un seul tome de 150 pages. On n'arrive pas à le découper en deux, en fait, on voulait faire deux tomes de 100 pages, puis on n'y arrive pas, donc on fait un tome de 50 pages. Il y a un troisième story arc qui sera un tome d'une centaine de pages. Et autour de cet arbre, je dirais, qui raconte un petit peu les aventures des personnages centraux de l'univers, il y aura des ramifications sur des personnages annexes. The Clock est un personnage un peu annexe. Ziaro est un personnage un peu annexe, même si on les voit dans les tomes. Tippi Taylor est un personnage complètement annexe, même si dans le volume 4, il a un rôle un peu visible. Voilà, donc on a plein de projets qui vont faire en sorte qu'on aura un univers qui, on l'espère, à terme, pourra intéresser pas mal de monde, notamment Tippi Taylor. Je pense que ça va intéresser les jeunes, parce qu'il ressemble en effet un peu à Tintin. Ça va intéresser les gens qui ne s'intéressent pas nécessairement aux super-héros, parce que ce n'est pas un personnage réellement super-héros. The Arrow, dans l'histoire qu'on est en train de raconter, ça se passe au Far West, donc c'est plutôt un peu western. S'il y a des gens qui aiment le western, ils pourront acheter le petit épisode de 22 pages de Arrow. Voilà, et donc au fur et à mesure, comme ça, on a des... Et c'est ça qui est aussi intéressant dans l'univers Centaur, c'est que comme ça prédate les super-héros, on a des séries qui, en fait, tournaient autour de thèmes porteurs à l'époque, le polar, le western, le fantastique, l'espionnage. Et du coup, c'est aussi ça qui m'a intéressé, parce que tous ces personnages permettent d'avoir un background, je dirais, pour le développement des histoires centrales. Donc, quand j'ai besoin d'un détective privé, je ne vais pas en inventer, hein, je vais aller en chercher. Quand j'ai besoin d'une organisation d'espionnage international, je vais piocher.
Donc voilà, ouais, au moins, il y aura... Vas-y Fab.
Ouais, je pensais, en fait, ça te permet d'avoir un vivier de personnages, de... Comment on appelle ça, de...
Supporting cast, de caractères secondaires, de personnages secondaires. Ouais.
Et de liens à l'univers où tu peux, toi, créer tes idées, tu sais qu'à tout moment, tu peux aller piocher là-dedans sans avoir de contraintes et pouvoir développer et poser des bases à plus ou moins long terme, en fait, sur tes histoires.
Complètement, ça me permet d'être toujours dans cette particularité qui est que je n'utilise que des personnages centaures. Et les quelques personnes qui ont déjà un peu utilisé les personnages centaures, donc il y a Galante, il y en a deux ou trois autres, dont certains qui n'existent plus, Malibu Comics, eux n'avaient jamais réellement été cherchés dans ces personnages secondaires. C'est-à-dire qu'ils avaient pris les têtes d'affiche, ils les avaient un peu métamorphosés, certains, pour les faire coller fortement aux archétypes modernes. Ils avaient un Wolverine, par exemple. Le personnage de Wolverine qu'ils ont utilisé, qui s'appelle The Ferret, qui n'est pas un très bon personnage, nous, on continue de l'utiliser tel qu'il est, y compris ce côté un peu décalé, ringard. Et ce qui est assez intéressant, c'est que malgré ce côté un peu décalé, un peu ringard, on a des artistes qui se sont intéressés au personnage parce qu'il a tout de même un particularisme graphique qui fait que des auteurs, je vais le citer, je ne sais pas s'il aura le temps de nous le faire pour la campagne de financement participatif, mais Laurent Lefebvre, le papa de Foxboy, moi, quand il l'a vu, il m'a dit « J'adore ce personnage, je vais te faire un truc dessus. »
Surtout que The Ferret, dans la version Centaure, il a quand même une espèce de cagoule en fourrure.
C'est ça. Il a une tête de furet, comment dire... comme une fourrure, quoi, comme un animal empaillé. Du coup, il a un double niveau dieu. C'est ça qui a beaucoup aimé Laurent. D'ailleurs, il n'y a pas que Laurent, il y a Costa, Jérôme, qui nous a fait une très belle illustration un peu pointilliste de The Ferret, avec cette espèce de double regard. C'est ça. Donc,
c'est un peu particulier comme perso.
Mais du coup, ils sont remarquables, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas beaucoup de personnages qui passent complètement inaperçus, on va dire. Et c'est très intéressant parce que nous, on réutilise dans le cadre des quatre premiers volumes les 60 personnages. Il y a à peu près 60 personnages, donc il y a au moins, ils sont au moins cités, ils font au moins une apparition, et pour certains, ils font un peu plus qu'une apparition. Et c'est très rigolo parce que tu te rends compte que les artistes, hein, donc Marty notamment, mais d'autres artistes, invités, entre guillemets, qui s'intéressent au projet et qui nous font l'amitié de nous faire des pin-ups, des commissions, etc. Ils sont frappés par certains personnages. Et notamment, il y a un personnage qui s'appelle Nightshade, que j'aime beaucoup, qui est une sorte de dilettante habillé tout de blanc, avec des lunettes noires, qui a la capacité, en fait, d'animer son ombre. Et donc, c'est très bien dessiné pour l'époque, hein, parce que honnêtement, parfois... la qualité des dessins et l'inventivité des scénarios n'était pas terrible. Ce personnage-là est très très bien, très très bien fait. Ton ombre, elle peut être très très profonde, c'est-à-dire que si le soleil est derrière toi, ton ombre, elle peut faire le double ou le triple de ta taille. Et donc, il jouait avec cette partie-là, c'est son ombre en fait qui agit. Donc, si son bras s'étend sur toute la chaussée, il est capable d'aller choper quelqu'un qui est sur le trottoir d'en face. Donc tu vois le personnage qui fait le geste et tu vois son ombre qui accompagne le geste. Et donc moi, je me plaisais bien ce personnage, donc je l'avais mis dans une ou deux cases du volume 4. Et en fait, quand Marty m'a livré les planches, je crois savoir que Marty aime beaucoup ce personnage parce qu'on le voit dans beaucoup plus que deux ou trois cases.
Oui, donc c'est l'apanage de l'artiste de pouvoir mettre ses petits persos où il veut, sans le dire au scénariste.
Exactement. Donc je lui avais dit, hein, tu fais comme tu veux, tu t'amuses, et voilà. Et donc je lui ai dit, ah bah dis donc, Mitchell, on le voit pas mal. Il me dit, ah, il est beau hein, comme personnage.
En fait, c'est l'idée originale qui a servi au personnage de Naruto, qui a exactement la même capacité d'éteindre son ombre. J'ai plus le nom en tête, mais il y a un ninja qui, dans Naruto, a exactement la capacité que tu viens de dire. Il éteint son ombre au maximum de sa portée. Tant qu'il y a de la lumière et qu'il projette
c'est
son
ça.
Ombre, il
ouais.
l'éteint de la même manière. Du coup, en fait, tout se relie.
Ouais. Ouais, bah oui, mais alors... Je pense que le créateur de ce personnage de Naruto n'a jamais lu Nightshade, mais ce sont des idées artistiques qui, à un moment, ont la même inspiration et sur un autre continent et sur des décennies de différence, mais c'est ça. Et du coup, Nightshade, celui de Centaur Chronicles, en fait, il porte à sa cheville un flash, ce qui fait qu'il peut créer son ombre par lui-même, puisqu'en fait, il peut créer un flash de lumière, et à partir du moment où l'ombre, donc, et comme c'est, il la porte à la cheville derrière lui, en fait. Donc le flash va forcément projeter une ombre devant lui.
C'est malin.
Et donc à partir de là, hop, il chope son ombre et il en fait et voilà. Oui, c'est malin. Non, honnêtement, le personnage qui n'a eu que 2-3 épisodes, si mes souvenirs sont bons, était bien dessiné, très intelligemment créé et surtout avec un vrai style. Parce que parfois les épisodes d'origine étaient un peu bruts quoi, y compris dans le sens graphique quoi, pas très raffiné. Or là, c'est vraiment pas mal et voilà. Donc on a ce genre de personnage et je suis persuadé. Qu'un jour, il y aura des épisodes de Nightshade à part, parce que il va y avoir des artistes qui vont me dire « Ouais, cette astuce de personnage, elle me plaît, elle me parle, et donc je vais en faire quelque chose. »
Complètement, ouais. Mais du coup, juste avant de discuter un petit peu des personnages qui auraient un lien avec d'autres productions, au niveau de ces personnages-là, Si quelqu'un, mettons, moi je suis entre l'utilisation des droits, ton univers de Centaur Chronicle, si quelqu'un a une idée à te proposer, enfin, a une idée, toi t'as déjà des idées pour tous les personnages, ou alors tu es ouvert à l'évolution de ces personnages par les collaborateurs avec lesquels tu travailles, que ce soit dessinateur, scénariste ou autre,
alors,
ou
j'ai
autre
une...
personne.
Ouais, j'ai une timeline, c'est-à-dire que je sais à peu près... Par l'historique des personnages, donc je rajoute parfois de l'historique, mais il y avait déjà pas mal d'historique dans Centaur, jusqu'au futur de l'univers, moi j'ai une ligne directrice. Donc je sais, et c'est quelque chose aussi qui nous différencie des productions modernes. C'est-à-dire que nous, ce qu'on dit, c'est notre univers, il est réaliste, c'est-à-dire qu'il est ancré dans la réalité. Pour être réaliste, c'est un univers qui évolue, donc les personnages vieillissent, certains personnages meurent, et quand les personnages meurent, ils meurent vraiment.
C'est ce que j'avais posé comme question.
Sauf s'il y a un twist scénaristique dès le départ, tu vois. Mais on ne va pas faire revenir un personnage qui est mort. Voilà. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que sur certains personnages, on va lui créer des successeurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont reprendre le costume. Ça ne sera pas le personnage original qui sera mort, mais potentiellement, il y a des gens qui vont reprendre le costume. Donc nos personnages vont vieillir. Certains de nos personnages vont mourir de vieillesse. Ils auront sans doute des héritiers, mais ils vont mourir de vieillesse. Donc, il y a tout un aspect générationnel dans Centaur Chronicle. Il y a un aspect sur la filiation, mais physique, c'est-à-dire la paternité, notamment dans le fin du deuxième story arc et début du troisième story arc, il y aura tout un aspect sur la paternité. Donc, il y aura des enfants, entre guillemets, ce qui nous permettra de réintroduire un peu l'équivalent des Teen Titans, mais avec des enfants qu'on aura vu naître et grandir. Donc on ne va pas choper Robin, Aqualad, qui étaient des pupilles. On va vraiment parler de ces enfants qui vont grandir dans des familles où il y a des super-héros. Moi, l'une des tendances scénaristiques, c'est de me poser la question à chaque fois, mais qu'est-ce qui se passerait dans notre monde, que ce soit au niveau de la société ou que ce soit au niveau d'une cellule familiale, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait vraiment des super-héros, tu vois, des gens qui ont des pouvoirs extraordinaires et qui donc sont très différents de l'humanité ordinaire, c'est-à-dire et donc voilà, donc nous on fait vieillir nos personnages, on fait grandir notre univers. Donc j'ai beaucoup d'idées sur plein de personnages, mais pour répondre à ta question, si des gens viennent et me disent voilà, j'aime tel personnage et j'ai une idée et que cette idée me paraît s'insérer dans cette trame large. Au contraire, il y a déjà des gens qui sont venus en me disant, pour l'instant, c'est plutôt des gens qui sont venus en me disant, tel personnage me plaît, est-ce que tu peux m'écrire un scénario? Et c'est ce qu'on fait, donc sur certains projets accessoires. Il y a un gars qui est venu avec un scénario quasiment tout fait, et tiens, je veux m'insérer dans ton univers. On était tombé d'accord, il a eu un autre projet qui s'est débouclé, donc il a préféré aller sur cet autre projet. Mais en effet, il avait une approche assez intéressante qui m'avait plu, et donc je l'ai inséré dans l'univers. Je lui ai juste dit, il y a un des deux personnages, je pense, tu n'as pas pris le bon personnage, donc je te conseille de prendre plutôt ce personnage-là. Il est tombé d'accord avec moi, et donc on avait de quoi faire un petit album de 24 pages là-dessus. Donc oui, pour répondre à ta question, Fabien, si les gens sont intéressés par l'univers, ont des idées, sont scénaristes ou dessinateurs, etc., ils peuvent nous contacter. Nous, c'est une autre des particularités du projet qui passe aussi par le financement participatif, c'est que moi, j'ai souhaité que ce projet soit collaboratif. Collaboratif entre les artistes et collaboratif avec le public. Donc si les gens ont des remarques à faire, il y en a qui m'en ont fait en me disant bah tiens, là on a l'impression que c'est pas super cohérent, donc ça m'a permis de rectifier des choses qui étaient peut-être pas assez claires, des choses comme ça. Et avec un ami, Damien, on a dans l'idée de faire un jeu de rôle, et on va faire du coup plutôt un site internet, une sorte de wiki Centaur Chronicles, sur lequel on va mettre les bases de notre univers, un petit système de règles, et sur lesquels les gens pourront raconter leurs aventures, s'ils utilisent nos personnages ou des nouveaux personnages, et pourront potentiellement apporter, entre guillemets, à l'univers, de manière à ce que l'univers vive aussi par les gens qui le lisent et qui potentiellement vont y jouer. Il n'y a pas d'horizon pour l'instant pour le jeu de rôle, mais dans quelques années.
D'accord.
Oui, donc c'est un projet quand même qui est multiplateforme également. Et je précise aussi que pour justement les apprentis, dessinateurs, scénaristes, etc., tu es très actif sur les réseaux sociaux, sur les différentes pages de Centaur Chronicles. Donc je crois qu'il y a du Facebook, il doit y avoir de l'Instagram.
Instagram, on a Twitter, je publie à titre purement personnel sur LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, mais où les gens aiment bien aussi de temps en temps regarder quelque chose qui sort de leur ordinaire professionnel. Voilà, donc sur LinkedIn, il y a beaucoup moins de réactions, mais en effet, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, on a quand même pas mal d'animations.
Bon, sur quelques groupes Facebook, justement, sur les héros libres de droit, où on se croise de temps en temps.
Oui, exactement.
En parlant de ces héros libres de droit, on va juste faire vite fait une petite parenthèse sur les différentes utilisations qu'il y a eu des personnes de Centaur Chronicles. Notamment de Amazing Man, qui est le personnage central de l'histoire, qui est entre le sage mystique, le super-héros qui vole, qui est fort et qui peut se transformer en brume verte. Voilà. Moi, ce que je suis un pur produit des années 90, et pour moi, ces personnages, je les ai découverts chez Malibu Comics, notamment chez les Protectors, qui regroupaient quasiment la plupart des heavy hitters, donc des gros caïds de chez Centaur, ouais. Notamment Amazing Man, Ferret dont tu as parlé, il y avait Herman, il y avait
Masque de Marvel, il y avait qui était rebaptisé Nightmask,
oui,
Phantom of the Fear qui était rebaptisé Nightgrave, si mes souvenirs sont bons, ou quelque chose comme ça.
Il y avait Eternal Man.
Il y avait Eternal Man qui avait un très très beau costume que j'aurais adoré reprendre. Ouais, exactement, mais qui n'est pas libre de droit celui-là. Hein. Donc c'est ça ce particularisme. Ouais.
Voilà.
Il y avait Mighty Man.
Mighty Man, exact aussi. Ouais.
Ouais, il y avait après il y avait des personnages qui s'avaient créés, mais dans les personnages originaux il y avait The Witch.
Oui, tout à fait.
Dont j'ai mis quand même pas mal de temps à comprendre d'où elle venait. au début je pensais que c'est une création, mais non, c'est un personnage qui a été repris de Centaur. Il y avait The Clock, dont on découvrait vers la fin qu'il était, comme dans notre univers, le précurseur de tous ces personnages. Ouais. Il y avait Man of War.
Oui, tout à fait, qui avait eu sa propre série.
Exactement, qui avait eu sa propre série, c'est ça qui m'a fait penser à lui.
Il y avait Gravestone devait être...
Il y avait aussi une série, c'est ça, Gravestone, ouais. C'était pas une Nightgrave, c'était Gravestone, c'était l'équivalent de Phantom of the Fair.
C'est ça.
Et il y avait The Eye, mais alors d'une manière totalement... alors j'avais bien aimé à l'époque où j'avais lu moi aussi, les Protectors. Mais par contre, nous, The Eyes, on a une origine différente d'ailleurs de The Protectors. Oui. Et qui, je ne peux pas le garantir, hein, bien entendu, parce que les auteurs sont morts. mais je pense qu'il est beaucoup plus en ligne avec ce que les auteurs originaux pensaient. Voilà. Mais donc Ziaï était quand même dans les protecteurs, on le voyait un tout petit peu. Hein.
Ouais, en fait, il n'était pas vraiment, il était ni gentil ni méchant, c'était plus fin, là,
c'est
c'est
ça.
un peu personne.
Une
Il y avait
sorte de
The Great
sage.
Question aussi, qui était
Il y avait The Great Question, exactement.
le méchant principal
C'est ça, c'est
là-dessus.
caché nous aussi. Ouais.
Sans spoiler, c'est également pareil chez Sandor Chronicles.
Ouais.
Et donc voilà, et moi, ce que j'ai aimé à la base dans Sandor Chronicles quand je l'ai lu, c'est justement que j'ai retrouvé un petit peu des Protectors avec cet univers cohérent, complet, et où les héros sont vraiment mis en avant. Bon, ton Amazing Man est moins cinglé que dans les Protectors, mais ça va.
Alors, moi, en fait, j'ai lu les Protectors après avoir lu les épisodes originaux de Centaure. Donc, bien
D'accord.
après. Donc, tu vois, j'ai dû lire les Protectors. J'ai racheté, en fait, les singles. Je n'avais pas acheté au moment de leur publication. J'ai dû racheter les singles au début des années 2000. Donc, ça faisait presque 10
Déjà,
ans.
ouais, 10 ans, ouais, que c'était sorti. C'est sorti en
C'était
92, je
sorti.
crois.
Voilà, tout à fait. Un truc comme ça. Donc, tu vois, presque 10 ans. Et la raison pour laquelle ils rendent Amazing Man dans leur univers un peu cinglé, je la trouve hyper cohérente.
Ah oui.
En tout cas, les racines sont dedans, mais je pense qu'à l'époque, ils n'avaient pas tous les épisodes. Donc, ils n'ont pas vu que cette racine, en fait, à un moment, a été coupée dans l'univers de Centaur Comics. Et c'est pour ça que je disais que notre projet repose vraiment sur les épisodes originaux. C'est-à-dire que maintenant, on a quasiment tous les épisodes originaux. Il manque deux, trois trucs, et je prie tous les jours pour que si ça sort, il n'y a pas un truc qui soit complètement contradictoire avec notre univers. Mais maintenant, c'est trop tard, donc ça sera comme ça. Mais j'ai vraiment relu tous les épisodes, j'ai vraiment tiré les timelines et les vies des personnages avec les faits marquants. Et du coup, nous, on est capable de dire pourquoi notre Amazing Man n'est pas
Oui.
fou. Mais bon, voilà. Après, j'adore et j'adore toujours. Les Protectors, c'était à mon sens une très belle série.
Oui, tout à fait. Bon, après, voilà, enfin, moi, c'est comme vous le savez tous, enfin, comme le savent les auditeurs qui nous suivent, moi, je suis fan de tout ce qui a été fait dans les années 90 et je peux en parler d'ailleurs pendant des heures, donc je vais arrêter là. Mais voilà, alors, on a eu les Protectors, on en parlait, on a eu Project Superpowers chez Dynamite. Qui la reprenait quasiment, comme tu disais tout à l'heure, tous les super-héros libres de droit qui existent. On a parlé de Gallant Comics, qui a sa série John Aman Amazing Man, qui est en
Exactement.
cinq numéros, je crois,
Cinq
que
ou
moi
six.
j'ai découvert plus ou moins en même temps que Centaur Chronicles, peut-être un peu avant,
D'accord, ok.
et qui m'a permis justement de voir la différence et d'apprécier le travail qui est fait sur Centaur Chronicles, qui est beaucoup plus construit. En fait, des fois sur John Aman, on a l'impression qu'il balance les personnages et voilà, parce qu'il fallait les mettre. Il y
Bah,
a.
disons que les Américains peuvent avoir ce réflexe de dire que d'ailleurs certains Français qui republient du Golden Age peuvent avoir, c'est de dire ah j'ai entendu parler d'un autre projet, donc bam, je balance le gars pour dire d'une certaine manière je suis précurseur ou dire je l'utilise aussi et dire c'est pas bien qu'un autre l'utilise, même si tout le monde a le droit de l'utiliser. Moi je le dis extrêmement clairement. Il y a plusieurs éditeurs. Alternatif, on va dire, français qui republie du Golden Age, et certains, de manière extrêmement sympathique et gentille, me disent ah bah tiens, je me demandais si j'allais pas plus republier du Centaure avec un personnage. Et je leur dis mais faites, parce qu'en fait, plus il y en aura à la rigueur, mieux ce sera. Et ça permet aussi, comme tu dis, aux gens de comparer. Et donc, les gens qui lisent Galante, bah, il y en a qui préfèrent Galante et il y en a qui vont préférer Centaure, mais ils sauront pourquoi ils préfèrent l'un ou l'autre.
Ouais. Bah, d'ailleurs, chez Gallant, ils ont sorti Mini Midget, donc The Extraordinary Miniature Man. Et
Tout à fait.
bah, à titre perso, moi j'ai trouvé ça assez sympa à lire. Il y a des bonnes idées dedans. Donc, enfin voilà, c'est pareil. Gallant est aussi disponible en financement participatif. Donc voilà, ça permet de faire vivre
Tout à fait.
différents projets avec des personnages qui
Ouais.
se ressemblent.
Et leur mini-midget s'éloigne assez sensiblement du personnage original, ce que je trouve très
Oui.
sympa, parce que du coup, ils ont leurs idées ils ont fait évoluer le personnage d'une manière que nous, on le fait différemment. Mais les deux sont tout aussi légitimes et moi j'aime les deux. Alors j'aime le mien bien entendu,
Forcément.
forcément entre guillemets c'est le mien quoi. Mais j'aime aussi celui de Galante et je le dis très ouvertement quand des gens me disent voilà, bah, je leur dis bah il y a ça aussi, quoi. Alors moi je l'ai découvert après. C'est Chris Malgrin qui avait été contacté je crois pour faire une couverture alternative qui me dit alors qu'il m'avait fait une illustration, mais est-ce que tu sais que Les personnages ont en partie été repris par un éditeur américain. Ben nous, je sais pas. Donc, il m'avait envoyé le truc en me disant, bah tiens, voilà, je fais quelque chose pour Galant Comics. Et du coup, c'est comme ça que je les avais découverts. Après avoir maturé mon scénario pendant 1 ou 2 ans, quoi. Donc,
Oui. Ça,
c'était
y a pas de...
marrant.
Ouais. Et sinon, est-ce qu'on parle du Amazing Man de chez Marvel ou pas?
Alors, on peut parler du Amazing Man de chez Marvel doublement, parce que je l'ai déjà évoqué plein de fois, et en fait, pour moi, c'est, je vais pas dire une reconnaissance, mais en tout cas, Marvel reconnaît la filiation, on sait pourquoi ils reconnaissent la filiation, je vais en parler. Et deuxièmement, parce que, là, c'est un scoop pour vous, dans le troisième story arc, donc le sixième tome, va y avoir une. Comment dire, va y avoir une référence inversée entre guillemets, c'est-à-dire que Amazing
D'accord.
Man va d'une certaine manière aller piocher dans quelque chose d'Iron Fist, puisqu'on parle, si on parle d'Amazing Man chez Marvel, on doit parler d'Iron Fist.
Oui, tout à fait.
Alors, ouais, alors pourquoi? C'est parce que Roy Thomas, que je connais après en plus à titre personnel, qui est un ami épistolaire, on s'est jamais vu, la fois il était à Paris, je pouvais pas être à Paris, j'étais à Saint-Malo. A raconté que quand il lui a été demandé par Stan Lee au début des années 70 de faire des personnages thématiques qui reprenaient des tendances de cinéma en fait, donc Luke Cage pour la Blaxploitation, ils ont lancé des personnages féminins comme The Cat, Miss Marvel, non c'était The Cat, Sheena the She-Devil et Night Nurse. Il reprenait en fait des tendances de cinéma. Et donc il y avait les arts martiaux. Donc Stan Lee lui avait demandé d'une certaine manière de pondre un personnage qui était dans les films de Kung Fu, que Roy Thomas adorait. Et donc il dit OK, très bien, et il commence à pondre un peu ce qui va devenir Iron Fist. Et comme artiste, il décide de prendre son vieil ami qui était en partie coloc, Gil Kane, et il lui dit voilà, on va faire un personnage voilà, Kung Fu, et donc il va venir de l'Asie. Voilà. Et Gil Kane lui dit, ah mais moi quand j'étais petit, je lisais un personnage extraordinaire, Amazing Man, qui venait du Tibet, qui était une sorte de surhomme. Alors c'était pas trop Kung Fu, mais bon. Et il lui dit qu'il était dessiné par Bill Everett, qui était aussi un grand ami de Roy Thomas. Peut-être qu'à
Bill Everett,
l'époque,
qui
il
fait
était.
énormément de personnages du Golden Age, dont la Torche Humaine, si je ne m'abuse.
Non, Namor. La
Namor,
Torche
c'était
Humaine, c'est
Namor,
Carl
excuse-moi.
Burgos, c'est
C'est
exactement.
Carl Burgos.
Et donc, du coup, Roy Thomas lui dit, ah bon, et c'était quoi? Et donc, il dit, voilà, il avait été dans une lamasserie, une cité perdue, par un conseil de sages qui avait des chapeaux pointus, des cagoules, et puis il y avait un méchant qui l'avait élevé, etc. Et donc, Roy Thomas lui dit, bah, c'est super, on va reprendre tout ça parce que ça te plaît, et puis, sous-entendu, parce que ça me facilite aussi ma vie de scénariste.
Bah oui.
Voilà. Et donc, d'où Kunlun. D'où l'oncle de Iron Fist qui en fait est une sorte de traître, en tout cas le méchant, d'où les mecs en capuche, d'où l'arme suprême, entre guillemets, ou l'arme mystique. Et donc, toute cette partie-là a été expliquée il y a très longtemps par Roy Thomas. Et le personnage d'Amazing Man, donc le personnage d'Iron Fist, est en fait une déclinaison moderne d'Amazing Man. Et récemment, enfin il y a quelques années, Marvel a sorti une série qui s'appelle Immortal Iron Fist, qui est sur le père du Iron Fist actuel, et qui, on se rend compte qu'il n'y a pas une seule cité perdue au Tibet, il y a 7 cités, et qu'ils font des concours tous les X années, et qu'ils envoient les 7 armes immortelles au Tibet, Iron Fist. Et donc, Iron Fist rencontre et se bat avec un personnage qui s'appelle The Prince of Orphans, le prince des orphelins.
C'est ça.
Et quand il essaye à un moment de le taper, ce personnage en fait se déstructure en une sorte de fumée, un nuage de brume verte, Green Mist. Et quand Iron Fist arrive à le battre, il lui dit, bah voilà, je me présente, je m'appelle John Heyman, ce qui est un jeu de mots, hein, puisque John Heyman en anglais ça veut dire John l'homme, de la même manière que John Doe c'est l'anonyme. Quand il y a un
Oui.
cadavre, on ne sait pas qui c'est John Doe. Et donc John Heyman c'est un jeu de mots pour dire John n'importe qui, quoi, John l'humanité, quoi. Et donc voilà, une fois qu'on sait ça et qu'on sait qu'Amazing Man s'appelle John Heyman et est capable de se transformer en brume verte et de s'appeler The Green Beast, on a compris que c'était Matt Fraction et, si il me semble, le scénariste, avait lu cette interview de Roy Thomas et a fait un clin d'œil très appuyé à John Heyman qui, du coup, après, est revenu dans l'univers Marvel, rencontre Captain America, si mes souvenirs sont bons,
Ouais, c'est ça.
pendant la Seconde Guerre mondiale, et Namor, si mes souvenirs sont bons. Il me semble, hein, dans les Invaders, du coup, voilà, les créations de Bill Everett sont restructurées, enfin se réunissent, quoi. Donc il y a un bel hommage de Marvel par rapport Amazing Man, mais qui ne s'appelle pas Amazing Man.
Tout à
parce
fait.
Parce qu'Amazing Man est un nom détenu par DC Comics.
C'est quand même assez chouette, je trouve, hein. Même si derrière, on sait très bien que Marvel, ils font de l'argent, et que voilà, c'est pas une société de... Voilà. C'est quand même chouette qu'ils le reconnaissent et que même... Il y a quand même ce clin d'œil qui est validé, quoi, entre guillemets, parce que il réfute pas d'une traite en disant ouais, c'est notre création absolue, même si, d'après ce que tu nous expliques, je pense que c'est plus la liberté du scénariste qui avait envie de se faire plaisir et de faire un clin d'œil que vraiment Marvel qui a demandé à ce que ça soit comme ça. Mais c'est bien qu'ils aient accepté de le publier.
Oui. Non, et c'est vrai que d'une certaine manière, ils se détendent un peu alors. Honnêtement, si tu publies un personnage qui s'appelle Spider-Man, même si c'est un vieux personnage du Golden Age, ils vont te tomber dessus et leurs avocats.
Ou Daredevil, par exemple.
Ou Daredevil, exactement. Mais ils se détendent un peu, c'est-à-dire que voilà, si tu appelles le personnage, comme ça a été le cas pour Project Superpower, de Devil Dare ou un truc comme ça, le mec qui brave la mort, Marvel n'a pas fait un sketch, quoi. Parce que je pense qu'il y a certes des managers, il y a certes des avocats, ça fait certes partie d'un grand groupe maintenant, Disney, est très axé sur la défense de la propriété intellectuelle, mais ce sont aussi des gens qui ont grandi avec tous ces personnages-là et qui peuvent comprendre que certains se font plaisir avec ces personnages-là et qui, du coup, ne s'interdisent plus de eux-mêmes laisser les scénaristes se faire plaisir. Les scénaristes ou les dessinateurs, tous les scénaristes.
Alors, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est, ça fait un bout de temps qu'on parle, c'est qu'on rentre dans le bois dur du sujet et là, les auditeurs sont en train de se dire il va encore nous causer pendant des heures. Non, je voudrais qu'on parle du tome 4 de Centaur Chronicles, donc, qui est actuellement en financement participatif sur Ulule. On a beaucoup parlé de la genèse de l'univers. Comme je disais, si vous voulez vraiment savoir dans le détail de quoi parlent les tomes 1, 2 et 3 de Centaur Chronicles, allez voir sur le blog, vous avez nos chroniques. Sinon, vous pouvez toujours aller sur le site de Centaur Chronicles également et puis lire les résumés des trois tomes.
Juste avant que tu continues, moi je vais profiter là de glisser un mot parce que moi je connais Centaur Chronicles de par ton amour de cet univers-là, donc via le blog, les chroniques que tu nous as proposées et tout. J'ai pu, grâce à Jean-Michel, lire le début de la série justement pour préparer ce podcast. Je ne connaissais absolument pas que ce soit les héros du Golden Age. J'avais entendu parler des Protectors, rapidement de Project Superpower, mais sans jamais avoir rien lu. Et je suis rentré assez facilement dans l'univers. Et le truc qui m'a vraiment beaucoup aidé, en fait, et que j'ai trouvé assez sympa, alors, même si il y a beaucoup de gens qui risquent de grincer des dents, parce que graphiquement, il y a un gap entre la restauration des épisodes originaux et derrière l'histoire actuelle, en fait, j'ai trouvé que le fait de passer avec les épisodes originaux, un petit peu de texte historique glissé au milieu des épisodes, ça permet de s'imprégner encore plus de l'univers, en fait, et ça apporte vraiment un plus à la BD. C'est pas juste de la BD que tu prends et que tu lis, et enfin, il faut le prendre en compte parce que c'est comment dire, c'est une lecture qui est différente d'un comics classique, je trouve. Et c'est moi j'ai vraiment apprécié ça, qu'on bascule du coup de l'original, la petite partie historique, puis l'histoire avec les conséquences que ça a entraîné. J'ai trouvé ça vraiment vraiment super bien construit. C'est pas difficile, même si tu connais pas les personnages, tu connais pas l'univers et que t'as pas de connaissances sur tout ce qui est Golden Age et personnages libres de droit. Ça se laisse lire, mais vraiment facilement, et j'ai passé un bon moment de lecture, vraiment.
Bah merci. Alors, nous, moi, en tant que scénariste, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de prendre le lecteur par la main, et donc, comme je m'appuie sur les épisodes originaux pour la trame scénaristique des épisodes modernes, j'essaye de faire en sorte qu'en lisant l'épisode moderne, le lecteur se pose des questions, et qu'avec la partie rédactionnel et puis après l'épisode originel, il trouve par lui-même d'une certaine manière ses questions, ses réponses aux questions. Donc ouais, ça, c'est quelque chose.
Du coup, ça génère une attente quand tu arrives à la fin du bouquin, quoi, qui te pousse à aller voir le tome 2, puis le tome 3, et puis là, le tome 4 qui arrive. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, pour la campagne du tome 4, il me semble qu'il y a enfin, on n'appelle pas ça une récompense, un palier, voilà, où les premiers volumes sont disponibles aussi.
Oui. On a un palier en effet où on peut avoir les trois premiers volumes. Alors on l'a fait comme ça parce que on s'est dit qu'il y avait peut-être des gens qui, enfin il y a forcément des lecteurs qui sont attachés à la dédicace. Alors je rassure tous les lecteurs s'ils ont des albums non dédicacés parce qu'ils les ont achetés en librairie, etc. S'ils viennent dans un festival où on est, on leur dédicace, y compris en faisant les artistes font un dessin. Hein. Donc, ne vous privez pas, si vous passez nous voir, il n'y a pas besoin d'acheter sur le stand le livre. Si vous venez avec votre livre que vous avez déjà, on vous le dédicacera et enfin, si vous voulez une dédicace des auteurs, des dessinateurs, c'est possible. Sur Ulule, ils sont numérotés, donc ça, on ne le fait pas en festival, bien entendu. Et en effet, donc, il y a une contrepartie avec les trois premiers volumes, et du coup, quelqu'un peut acheter le quatrième volume et se le faire dédicacer, si vraiment il veut une dédicace personnalisée des auteurs. Et après, il y a un pack où il y a les quatre volumes, plus cet objet un peu atypique, on a un volume qui est entre le 2 et le 3, qui est en fait un crossover avec l'univers du Garde Républicain et d'Hexagone Comics de Jean-Marc L'Officier, qui s'appelle Les 6 contre Crick Schiff, et qui donc est une préquelle au tome, au volume 3. Alors on peut lire les quatre volumes sans aucun souci. Cette préquelle, ce volume qui fait 48 pages en format souple, qui est un petit peu différent des volumes, apporte un petit plus supplémentaire, mais c'est pas obligé. Et donc, il y a en effet cette contrepartie où on peut acheter les quatre volumes plus le crossover, et puis on offre, si mes souvenirs sont bons, le petit fascicule qui sont les racines du projet, et puis un sketchbook. Voilà. Donc, en effet, on a fait en sorte que ça soit hyper ouvert et que les gens puissent, d'ailleurs, cette contrepartie, où il y a tout d'un coup, je crois que ça s'appelle le récit complet, a beaucoup de succès dans la campagne.
Oui, c'est ça, le récit complet. Je suis en même temps sur la page Ulule, le récit complet, donc on prend les quatre tomes de Centaur Chronicles, le crossover 6 contre Crick Schiff,
Exactement.
deux sketchbooks, pas un, mais deux sketchbooks, ma brave
Ah,
dame,
deux sketchbooks, tu vois,
le
carrément.
fascicule, le nom dans les remerciements, les fonds
Ouais,
d'écran,
c'est ça.
les paliers débloqués, qui en a déjà pas mal d'ailleurs en ce
Il y a déjà
moment,
pas mal, ouais.
parce qu'à l'heure où on enregistre, on est à 170% de l'objectif. Donc ouais, c'est un pack qui est assez complet, sachant que pour ceux qui ont déjà les trois premiers volumes et qui veulent le pack Centaur Chronicles 4, il vous en coûtera 25 euros.
Exactement.
Voilà. Donc, pour en revenir à ce Centaur Chronicles 4, à la fin du 3, les dernières images nous laissent sur une impression de guerre du monde ou de Mars Attacks.
C'est ça, exactement. Une
Voilà.
invasion d'outre-monde. Exactement. Donc il y a des forces d'invasion massives qui arrivent sur Terre pour conquérir la Terre et d'une certaine manière viser aussi certains des personnages principaux de l'univers Centaure. Exactement, ouais.
Voilà, donc on se doute bien que nos super-héros vont devoir se battre contre ces forces d'invasion martienne. Donc là où on tombe, comme je disais, dans une guerre des mondes. Nous, on a eu la possibilité tu nous as fait l'amitié de nous permettre de regarder le tome 4 de Centaur Chronicles en avant-première. On va pas parler du scénario parce que ce serait vraiment spoiler l'histoire et c'est pas le but de ce podcast. Néanmoins, alors moi, j'ai juste parlé de la partie graphique. Parce qu'on a pu voir la partie graphique également en noir et blanc, et le travail qui est fait sur les graphismes est tout bonnement fabuleux. Donc on a beaucoup de double splash page, on a une mise en page qui est très dynamique. Bon, il y a de la baston, forcément, et tous les super-héros de Centaure sont de la partie. D'ailleurs, il y a énormément de personnages dans ce tome 4. Mais voilà, je trouve que graphiquement, les tomes se sont améliorés au fil des publications et celui-là me semble être vraiment un aboutissement. J'ai pas encore les couleurs, enfin les planches colorisées, mais
Et
ne serait-ce qu'au niveau.
si je dis pas de bêtises, je crois que le dessinateur a changé, non?
Non.
C'est toujours Marty qui dessine
Ouais,
hein, et
sur Marty qui dessine. Ouais. Alors, ce qu'il
d'accord.
faut savoir, c'est que bon, Marty déjà produit beaucoup. Donc, il travaille sur les quatre volumes de Centaur Chronicle. Il a produit des trois volumes de Plitéa. Il a
Ouais.
produit un Garde Républicain, en sachant qu'en fait, il en a produit deux, mais qu'il y en a un qui n'est pas encore sorti. Il a produit un crossover pour chez Black and White, le livre qui fête les 40 ans de Mustang. Il a produit un
D'accord.
crossover entre les différents personnages de Mustang. Donc du coup, il a produit, et comme vous le savez, vous qui vous intéressez aux artistes, il n'y a pas 36 manières de progresser quand on est un artiste, et notamment un dessinateur. Il faut produire, parce que plus on produit, plus on va trouver son style, plus on va. Alors, parfois, le style va évoluer, il va se simplifier, il va se complexifier. Souvent, il simplifie. Mais bon, voilà. Donc, il y a premièrement ça qui fait que Marty a beaucoup évolué entre le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et c'est pas un secret. Donc, Marty a décidé, et dès le début, hein, dès le début du projet, avait dit, il était même pas sûr de faire les quatre premiers volumes, mais il m'avait dit, tu sais, à la fin de la première arche narrative, j'ai d'autres projets personnels, il y a d'autres projets. Donc, il m'avait dit, je m'arrêterai sans doute, entre guillemets. Et ça m'allait très bien pour une raison que je vais vous expliquer. Et donc voilà, c'était son dernier volume. Et Marty m'a dit, je veux faire un truc qui claque.
Eh
Donc,
bien, c'est réussi.
c'est pas qu'il se soit pas appliqué sur les précédents, mais il a apporté une attention vraiment très particulière, et notamment s'il y a beaucoup de personnages, il voulait que les pages soient lisibles. Il voulait finir, entre guillemets, en beauté, en sachant que c'est un projet annexe qui, malgré tout, va être, mais dans quelques années, sur Centaur Chronicle. Donc, c'est le même dessinateur. Mais en effet, il y a une attention très particulière qui a été portée. On nous en avait fait un poil le reproche, qui était de dire, la série est un peu longue, c'est-à-dire, vous auriez peut-être pu, enfin, quatre tomes, c'est beaucoup, etc. Moi, ce que je voulais, c'était poser ces personnages. C'est-à-dire que je voulais pas un récit trop compressé. Je voulais vraiment que les lecteurs puissent suivre l'évolution de ces personnages qui sont symbolisés à la fois par leur changement de costume, mais aussi au travers, je dirais, l'arche narrative. L'idée, c'était de finir un peu en beauté. Et certes, il y a eu un peu moins d'action sur les trois premiers volumes où on a axé vraiment sur la découverte des personnages, leurs origines. Donc là, il y avait des choses quand même sur leurs origines qui étaient des révélations, mais qui n'étaient pas nécessairement des combats épiques, on va dire. Le troisième volume était centré autour des adversaires. Donc là, on découvrait les motivations des adversaires. Là aussi, il y avait quand même de l'action, voilà. Mais par contre, le volume 4, je dirais, est vraiment un volume bourré d'action. Et c'est pour ça que Marty a vraiment travaillé sur le dynamisme des pages, et à la fois bourré d'action, et qui reprend quasiment tous les personnages, parce que tu l'as dit, Cyril, il y a énormément de personnages. Alors parfois ils apparaissent qu'une case, parfois ils sont juste cités, mais néanmoins, ils ont tous un peu leur moment de gloire, et du coup, bah, il fallait mettre tous ces personnages dans ce volume, et Marty a fait en sorte que ils aient chacun un peu leur moment de gloire, leur quart d'heure warholien. Il y en a plein qu'on va réutiliser, et voilà, et donc il y a des petits trucs rigolos où... voilà, je spoile rien, mais honnêtement, je pense que le lecteur, en regardant, se dira, ouais, ben ça c'est rigolo, quoi. Ce personnage-là, il est rigolo, quoi. Ce qui est important pour moi, et qui pour le personnage dont je parle, qui est Plimoth Rubberman, qui est l'équivalent un peu de là aussi de Plastic Man ou de Mister Fantastic des Quatre Fantastiques. Voilà, c'est un personnage qui en fait initialement est dans un cirque. Donc
D'accord.
c'était des aventures un petit peu rigolotes. Donc là, voilà, il a son petit quart d'heure de gloire et qui en plus est rigolo. Donc ça colle bien avec le personnage.
Bon, je rigole parce que je viens de tomber sur la case où il y a The Ferret dessus.
Ah voilà, bon, bah, écoute.
En plus, moi, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure du fait que moi, je pensais que ça avait changé de dessinateur parce que je voyais beaucoup Eric qui stream beaucoup, qui dessine de plus en plus en ce moment. Eric qui est le coloriste. Et qui est un gros fan des Tortues Ninja, donc c'est pour ça que je le suis aussi.
Faut que tu places les Tortues Ninja dans tous tes podcasts.
Exactement, c'est un contrat avec moi-même. Et du coup,
Réussi.
je reparle de ça parce que, en fait, tu expliquais tout à l'heure que Marty était très productif, mais du coup, si on voit tant la différence par rapport à ses premiers volumes aussi, c'est que il a eu le temps, comme tu disais, de travailler dessus et de s'approprier les personnages. Et comme à chaque fois que un auteur commence une série, on voit l'évolution de ses
Bien sûr.
personnages du début jusqu'au moment où il le maîtrise. Et du coup,
Tout à
ça
fait.
coule de source, entre guillemets.
Ouais, alors complètement. D'ailleurs, c'est voulu d'une certaine manière. C'est Marty qui a voulu cette espèce de redesign en me disant, écoute, il y a des costumes, il me dit, ils sont ringards, quoi. Notamment, c'était le costume de masque de Marvel qui, au départ, est un uniforme rouge de joueur de polo, tu sais, avec ce qu'on appelle des jodhpurs, c'est-à-dire des pantalons un peu avec une culotte de cheval, quoi. Et il me disait honnêtement, celui-là, franchement, après, il me dit Amazing Man torse nu avec un espèce de slip de bain, voilà, The Shark avec un slip de bain. Donc, il a redesigné les personnages. Et moi, ce qui m'intéressait, j'ai pas pris. Alors, j'ai pris Marty d'abord parce qu'il a accepté, mais je n'ai pas choisi initialement, je n'ai pas proposé à Marty par hasard. C'est parce que son style de dessin n'était pas trop en décalage, je trouve, avec les dessins du Golden Age. Et donc, ça permettait de ne pas avoir quelque chose qui allait complètement rompre graphiquement et où je me disais, le lecteur va se dire, ah ben, je passe en gros, je sais pas, de Jim Lee, ou on parlait de la One First de Jay Lee, tu vois, à quelque chose qui. Voilà. On a toujours fait attention que les épisodes du Golden Age qu'on rééditait aient une qualité graphique, parce qu'honnêtement, il y a des épisodes qu'on ne rééditera jamais, qui sont d'un amateurisme, même pour l'époque, terrible. Et donc, Marty me permettait de faire cette évolution graphique et que les personnes se disent, bon, bah voilà, on est passé du Golden Age vers le début du Silver Age. Voilà. Moi, si j'avais, dans l'idéal, hein, je l'ai déjà dit dans d'autres interviews, si j'avais pu avoir un artiste, j'aurais pris Bob Powell, qui est un artiste américain qui est décédé d'un cancer, malheureusement, juste avant le relaunch des super-héros, et qui donc a dessiné plutôt des personnages un peu fantastiques, ou des personnages de jungle, notamment chez Magazine Enterprise. Voilà. Mais tu citais Fabien Eric Van Helsland, et en effet, il se chauffe sur les personnages pour plusieurs raisons. Un, il nous accompagne en salon. En tant que coloriste, et comme il dessine, c'est un dessinateur, c'est un artiste au complet, Eric.
Oui.
Et qui dessine très bien, il y a des gens qui lui demandent des dédicaces. On a d'ailleurs fait passer pas mal de dédicaces d'Eric sur les réseaux sociaux. Et puis, voilà, c'est pas tant un scoop que ça, parce qu'il y a des gens qui le savent déjà. Eric va dessiner le deuxième story arc. Et ce deuxième story arc va être le passage du fin de Golden Age à Silver Age, entre guillemets. Et le style de Eric est très Silver Age, je trouve. Donc du coup, voilà, on va passer un cap, entre guillemets, dans notre univers. Marty va lâcher les crayons et c'est Eric qui va les reprendre. Il n'y aura pas de crossover avec les Tortues Ninja, je le dis d'ores et déjà,
Je
sauf sur une
suis sûr, il y aura
dédicace.
une mini-case dans un coin où il y aura une petite torture.
Alors ça, c'est peut-être pas impossible. Ça, c'est peut-être pas impossible. Ou quelqu'un qui lit un magazine, ben, ça, c'est pas impossible. Après, sur des dédicaces. Il a déjà fait des crossovers entre l'univers de Midnight Tiger, qui est l'un des comics qu'il a dessiné pour Acclaim Comics, si je me souviens son nom, Acclaim Entertainment.
Ouais.
Donc, il y a déjà des dédicaces qui circulent sur Internet où il y a, si mes souvenirs sont bons, Man of War et versus Mighty Tiger, et puis il en a fait deux des dédicaces. Les gens qui viennent et qui sont passionnés,
Ah,
s'il lui demande, c'est pas impossible qu'il le fasse. Il le fait pas tout le temps, mais ça peut arriver. Et donc voilà, c'est Eric qui va prendre la suite et qui va amener voilà, un univers graphique supplémentaire. C'est vrai que pour ce volume 4, ouais, très clairement, il est plus dynamique et on le savait, quoi. C'est-à-dire, on posait les bases de l'univers et ce volume 4 n'est en réalité qu'une bataille, je dirais. Titanesque comme a pu être la prise de Paris ou le débarquement, quoi. C'est une unité de lieu, hein. Quasiment tout se passe à New York avec une unité de temps, c'est-à-dire on commence le livre, on finit le livre, limite c'est en temps réel, quoi.
Ouais, non, et puis c'est très, c'est vraiment très, très vivant au niveau du storytelling. Là encore, Marty, sur le choix des cases, sur l'agencement des cases sur la page, rend tout ça très dynamique, rend tout ça vivant. Et voilà, on arrive quand même à avoir quelque chose qui, enfin, moi, qui, à titre personnel, hein, qui me donne envie de continuer, quoi, d'en lire encore plus et de profiter de cette histoire. On en a déjà parlé. Tu sais que j'aime la façon dont tu as écrit tes scénarios sur Thunder Chronicles. Voilà, c'est on a envie d'en savoir plus. Pourtant, c'est pas Batman, c'est pas Superman, c'est pas des personnages qui ont la visibilité que peuvent avoir les personnages mainstream. Et tu arrives à aller au-delà de ça, justement.
Écoute, merci. Et oui, c'est notre intention. Et comme je disais, on a plein de projets annexes. En plus de ces deux prochains story arcs qui devraient sortir en 2022, celui avec Eric en 2023, J'annonce pas encore l'auteur qui travaille dessus, mais c'est un auteur français. C'est un auteur français qui a premièrement un style qui, moi, m'époustoufle à chaque fois, qui nous a fait l'amitié d'accepter, même s'il travaille pour des éditeurs américains. Alors non, ce n'est pas Olivier Coipel, je le dis tout de suite, ok, quelqu'un y pense, parce que j'y pense en même temps de dire ça.
On a moins la bouche.
Mais voilà, donc il y aura ce troisième story arc qui sera là aussi à la fois réflexif et dynamique. Le deuxième story arc est beaucoup plus branché action. Et il me plaît bien parce que c'est un hommage à certains comics Marvel des années 70, on va dire. J'en dis pas plus. Et la fin surtout est très la fin, voilà. Et c'est pour ça que c'est pas plus mal qu'il soit en un seul tome, parce que les gens pourront le lire d'un coup et comprendront pourquoi la fin est hyper intéressante et hyper importante dans l'univers Centaure.
La fin du volume 4 est bien aussi. Je...
Oui.
Voilà, les lecteurs ne seront pas déçus. Un artiste qui travaille pour les Américains. Tiens, j'ai peut-être une idée, moi, mais je ne vais pas.
J'en ai deux.
Ah, écoutez,
On fera ça en off et vous n'en
on fera
saurez
ça en off,
rien.
exactement.
On ne
Sans
dira
off, je
rien.
ne saurais rien. Non, pour en effet, moi j'ai vraiment essayé. Alors, premièrement, j'ai essayé de résoudre toutes les petites questions que j'avais mises dans les trois premiers volumes. Donc, il y a un ou deux trucs que les lecteurs ne sauront pas, mais c'est parce qu'on veut poursuivre dessus. Voilà, donc c'est pas qu'on les a oubliés. Si les lecteurs se disent, tiens, mais là, j'ai pas compris pourquoi ça, c'est pas que, sauf vraiment si on a vraiment oublié quelque chose, ce sera un vrai oubli. Mais les un ou deux petits trucs qui ne sont pas résolus à la fin du volume, c'est parce qu'il y aura des suites. Et sur tout le reste, on a vraiment essayé de clôturer toutes les pistes et toutes les énigmes qu'on avait lancées. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et du coup, Marty rigolait quand il a reçu le scénario en me disant, ah oui, épilogue avec un S quand même. Et bah ouais, épilogue avec un S, parce qu'il y
Ben
avait suffisamment de choses qui avaient été lancées pour que, je dirais, il y ait plusieurs petits épilogues. Ça sera le cas dans le volume, dans le story arc 2. Et ce sera pas le cas dans le story arc 3. Mais voilà, c'est un peu aussi la marque de fabrique de Stom, c'est qu'à la fin, il y a plusieurs épilogues.
c'est les scènes post-génériques du Centaur Chronicle Universe.
C'est un peu ça, ouais. Il y a un peu de ça, en effet. Il y a un peu de ça.
Et justement, tiens, en parlant de Centaur Chronicles Universe, on va rester sur des anglicismes. Ce serait envisageable de voir une version anglaise, US, de Centaur
Alors, en
Chronicles?
fait, non seulement envisageable, mais c'est en cours. C'est un des projets annexes. On va lancer une campagne de financement participatif Kickstarter. Sans doute en septembre. Alors, il y a beaucoup de projets qui ont été retardés hein, du fait de la Covid.
Oui, forcément.
Je vous disais, hein, en fait, initialement, la campagne de financement participatif du volume 4 devait commencer en mars 2020. Donc,
Oui, il y a eu
autant vous dire qu'il
un an de retard, je crois,
y
sur
a eu un an de
le.
retard, exactement. Parce qu'on n'a pas voulu solliciter les soutiens, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui nous soutiennent de manière extrêmement dynamique. Dans des situations qu'on pouvait imaginer pour eux, que ce soit financière, que ce soit familiale. On a décalé un petit peu pour se dire, voilà. Mais les planches étaient à l'époque quasiment prêtes. Voilà, donc il était quasiment prêt. Donc on a décalé d'un an, ça, du coup ça nous a décalé aussi notre projet américain. Et en effet, on va lancer un Kickstarter américain. Comme tu le disais, on se croise de temps en temps sur des forums public domaine
Oui.
de super-héros américains. Et il y a l'air d'avoir une appétence de nos amis américains. Donc oui,
Justement, c'est pareil, je tiens à le dire, on n'en avait pas parlé avant, c'est vraiment la question que je me suis posée parce que je trouvais que ça s'y prêtait bien, et je confirme l'intérêt sur ces forums qu'il peut y avoir pour Centaur Chronicles, malgré que les Américains soient assez chauvins sur leurs
ouais.
super-héros. Il y a quand même cette curiosité par rapport à ce qui en ressort. Et pour les quelques Américains qui ont testé en français, même s'ils ne parlent pas la langue, il y a des bons retours. Donc c'est pour ça aussi qu'on se demande. Enfin voilà.
Des Américains qui m'ont acheté. Et donc, à chaque fois, je leur dis, mais c'est en français, on est d'accord. Hein. Et donc, les Américains qui m'ont acheté m'ont dit, bah, en fait, j'ai étudié le français à l'équivalent de notre lycée, donc je suis à peu près capable de lire. Et en effet, il y en a pas mal qui m'ont répondu après en me disant, j'ai trouvé ça génial. Et donc, je leur ai dit, mais vous avez réussi à lire? Oui, bon, parfois Google Translation, mais j'ai réussi à lire. Donc voilà, et on veut le faire parce que bon, déjà il y a des gens qui le demandent, donc ça c'est déjà sympathique. Et moi, à titre personnel, je dirais en tant que porteur de projet, j'aimerais savoir ce que un public nourrit à cet univers et à cette manière de raconter des choses, d'une certaine manière, peut dire de ce qu'on, de ce qu'on appelle ce transfert culturel, c'est-à-dire quelque chose qui est arrivé chez nous et qui repart chez eux. Est-ce qu'ils vont me dire, ah ben c'est un truc qu'on aurait aimé qu'un Américain fasse, comme tu dis, ils sont parfois assez chauvins. Ça, je pense que ça serait vraiment un truc où si le mec me dit ça veut dire que vraiment ça a accroché. Ou ne serait-ce que dire, voilà, ça ressemble à du super-héros américain, sous-entendu, vous avez réussi, toi et vous, Français, de manière plus large, à vous approprier cette matière avec ses codes, avec tout ça, et à faire un comics, voilà, un vrai comics, quoi. Comme je dis, je n'aime pas cette terminologie de French comics. Pour moi, un comics, il est bon ou il est mauvais, et qu'il soit écrit et dessiné par des Français, ou écrit et dessiné par des Américains, ça reste un comics dans ses codes de lecture, et il est bon, et, enfin, plus exactement, il plaît ou il plaît pas au lecteur. Parce que bon et mauvais, c'est déjà un peu. Donc j'attends un peu ce retour, j'espère qu'il sera bon, enfin, ou en tout cas que les gens aimeront, parce que sinon, bon, forcément, ça fera un peu mal à l'ego et au projet, mais pour l'instant, j'ai en effet des bons retours, et je pense que ça peut être un petit succès, je dirais, d'édition Ulule, enfin, Kickstarter sur place, ouais.
Ouais, je pense que ça
Après,
doit marcher.
Pas tant. Comment on appelle ça? Même si c'est chauvin et que les retours sont pas tous positifs, ça peut également être une source peut-être de points qui va consolider encore plus et qui peut également faire évoluer le projet au même titre que tu étais ouvert au retour que les soutiens français t'ont fait. Ça peut également apporter un autre type de retour et un autre type de regard sur le projet. Ça peut être super intéressant, je trouve.
Complètement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans son temps, donc je file une métaphore sur le médium comics, mais je file aussi une métaphore sur la société américaine avec comment dire, comme base, et de dire, mais comment est-ce que la politique américaine aurait évolué s'il y avait vraiment eu des super-héros? On voit comment les Américains jouent de leur avantage technologique. Après la Seconde Guerre mondiale, les super-héros, après tout, c'est une arme comme une autre. Donc, il y a plusieurs moments dans le premier story arc où on voit les Américains utiliser leurs super-héros sur des théâtres d'opérations étrangers, notamment la guerre de Corée. Et du coup, j'insère beaucoup de l'histoire américaine. Et en plus, j'insère de l'histoire américaine uchronique, parce que dans mon univers, il y a un président américain qui, en fait, survit plus longtemps que dans notre univers à nous. Donc, j'ai été obligé de me raccrocher en disant, mais s'il n'était pas mort, qui aurait pris sa succession? Enfin, pas mort à la bonne date, machin, etc. Et du coup, je fais relire je l'ai cité, hein, pour son univers Hexagone Comics, Jean-Marc Lefissier, qui est le plus américain des Français, en tout cas le plus américain des scénaristes français. Puisqu'il a vécu des années aux États-Unis, qu'il a bossé pour Marvel, pour DC. Et c'est lui qui me sert un peu de sparring partner pour dire est-ce que c'est logique, est-ce que c'est cohérent, est-ce que le personnage public politique que j'utilise ou le personnage médiatique américain, voilà. Et bon, là aussi, je vais avoir un retour. C'est un peu là-dessus que j'ai un peu peur, mais les Américains qui l'ont lu en français et qui m'ont fait le retour, je leur ai demandé, je leur ai dit, ils m'ont dit non, ça passe super bien, honnêtement. Il n'y a pas de grosse erreur, tu vois. Je sais pas, utiliser un personnage qui serait mort ou qui aurait au-delà de mort, parce qu'on est dans une uchronie, donc il pourrait ne pas être mort dans nos aventures à nous, mais qui aurait une couleur politique totalement différente. Tu vois, je me serais planté et j'aurais mis des mots de républicain dans la bouche d'un démocrate. Donc oui, tout ça va nous être. Mais oui, comme on essaye d'être réaliste, le réalisme va jusqu'à la politique, entre
Oui, ça coule de source quand tu l'expliques, mais quand tu réfléchis, moi, c'est pas quelque chose auquel j'aurais pensé tout de suite.
Ouais, bah oui, parce que les Américains se sont servis comme un outil de propagande, les comics. Hein. Donc, comme chez nous, le comics, entre guillemets, sa transposition, c'est le personnage du super-héros, ça paraissait pour moi évident que les Américains s'en seraient servis comme d'un outil de pouvoir, quoi, et donc d'un outil politique.
Un peu
C'est
comme
pas
on a
pour
vu
rien.
sur Watchmen, dans une
Exactement, et c'est.
autre, voilà, dans une autre, un autre contexte, mais
Tout à fait. C'est pas pour rien que Captain America balance un coup de poing sur la gueule de Hitler au début, quoi. Donc voilà. Donc écoute, on va voir. Donc en effet, Centaur Chronicle Universe, alors ça sera à travers l'édition américaine, et ça sera à travers ces petits projets un peu annexes, qui s'appelleront sans doute Centaur Chronicle Present, et qui sera, pour reprendre une célèbre terminologie comics, et qui sera dédié à certains auteurs ou à certains personnages.
D'accord.
C'est une très bonne nouvelle.
Ouais, et ça fait
voilà.
un projet assez intéressant, assez complet et multiculturel, on va dire. Donc, c'est plutôt intéressant. Je pense qu'on a fait le tour, nous, des questions qu'on avait pour toi, à moins que Cyril en ait encore...
Non, je vais m'arrêter là.
on refera voilà, un prochain coup pour le prochain tome. Pour rappel, la campagne Ulule est en cours jusqu'au 13 juin pour,
ouais.
le, tome co- pour le tome 4, pardon, avec bah, les différents paliers, différentes propositions et stretch goals qui sont débloquables. Vous
ouais. D'ailleurs, si je peux dire deux choses par rapport à ça.
Je t'en prie.
On a une statuette. On a une statuette en résine dans les contreparties de 20 cm de haut qui est réalisée par Fabrice Peluzzo en tant que modeleur, designer et par Forgelou à l'impression. On a diffusé des images sur les réseaux sociaux avec la modélisation. Ensuite, le prototype non peint, et là, on est en train de diffuser le prototype peint. Du coup, j'encourage les gens à les regarder parce que entre la modélisation et le prototype peint, il y a une vraie différence. Voilà. Et Jean-Marie Minguez, et sans doute moi, mais en tout cas Jean-Marie Minguez, c'est sûr, sera sur le stand de nos amis North Star Comics à Dieppe les 12 et 13 juin au festival de la bande dessinée de Dieppe. Et il y aura. Ouais, exact. Non, pas Made in Comics, mais bon. Et il y aura l'un des prototypes de la statuette. Donc les gens pourront venir regarder s'ils passent par Dieppe la statuette. Et deuxième chose, on a des stretch goals. Donc un stretch goal important là, à 200%, puisqu'on vient de passer les 170. Le stretch goal de 200%, c'est un épisode de 8 pages de Jean-Marie Minguez sur son personnage préféré, qui est une sorte de comment dire d'épisode à l'intérieur de l'épisode, puisqu'en fait c'est centré sur ce personnage là dans un lieu bien particulier au sein de cette immense bataille donc de New York, et puis on a des stretch goals jusqu'à 200%. On a été très très ambitieux, dont un où quoi qu'il arrive je dirais on le dévoilera, qui est un artiste français connu pour ce genre de choses, qui nous a fait un A3 avec 40 personnages de l'univers Centaure.
Ah ouais.
Voilà. Au hasard, donc, Chris malgré.
Alors non, pas. C'est pas Chris. Chris nous a fait un ou deux trucs aussi. C'est un dessinateur qui a fait ce genre de. Je lâche un peu d'infos. C'est un dessinateur qui a fait ce genre de choses pour des doubles covers de Scarce Magazine. Voilà. Vous pouvez,
on va falloir
aller chercher. Voir Scarce Magazine si vous les trouvez. Enfin, vous les trouverez forcément. Et donc, vous trouverez qui est cet artiste, qui est un artiste exceptionnel. Et qui nous a fait un dessin, voilà, que quoi qu'il arrive, on dévoilera, et qui est fantastique. Honnêtement, voilà, je ne suis pas du tout objectif en disant ça, mais je pense que je dirais qu'il est fantastique.
Du coup, moi, pour toutes ces infos, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode, avec le lien principal sur Ulule. Je vous mettrai les liens des chroniques des premiers tomes dont Cyril parlait un peu plus tôt. Je mettrai également les liens pour les captures d'écran de la statuette que tu nous parlais. Et après, je pense que tout le reste des informations pourra se retrouver sur les pages des réseaux sociaux de Center Chronicle.
Ouais, Center Chronicle sur Facebook. On a une page projet, on a un groupe à l'intérieur de la page projet. Tous les lecteurs peuvent y adhérer. Voilà, c'est moi qui gère ça en tant qu'administrateur. Et donc, il suffit de dire que voilà, ils viennent grâce à vous et hop, on les accepte et du coup ils auront accès à tout. De toute façon, c'est public, donc je veux dire, ils peuvent chercher sans même vouloir adhérer entre guillemets, ils trouveront tout ça. Ouais.
Voilà. Du coup, tous les liens seront dispo. L'épisode sortira en plein dans la dernière ligne droite de la campagne. Je te remercie d'avoir pris un peu de temps pour enregistrer avec nous. Merci
c'est moi.
Cyril d'avoir organisé tout ça.
Merci à vous deux.
Avec attention et je vous dis une bonne fin de journée, de soirée quand vous nous écoutez. Pour nous, vous nous retrouvez comme d'habitude presque tous les jours sur les sorties du blog, sur Instagram pour des chroniques qui sont un petit peu exclusives aux Instagram, le reste, le Twitter, le Facebook et les podcasts. Merci beaucoup, salut à vous et à très bientôt.
Merci.
Merci, à bientôt.